Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour et merci d'être à l'écoute de Radio Foot International en ce lundi, début de semaine, ici comme ailleurs et dans Radio Foot évidemment. Now Bryant again, out between the rings, guarded by Pippen. Kobe on the move, lobs for O'Neal for the dunk. Kobe Bryant works into the lane and has to put it up with the buzzer. La tristesse du monde du sport et notamment des footballeurs après le décès du grand basketteur américain Kobe Bryant. Messages et hommages se sont multipliés depuis hier soir. Son adolescence en Europe l'avait converti au foot, qu'il disait aimer passionnément. Son sang était rossoneri, assurait Kobe Bryant. Le Real Madrid en tête de la Liga, les Merengues ont gagné hier alors que le Barça perdait dans la chaude enceinte de Mestalla. Valence a étouffé de pâle Blaugrana. Faut-il être inquiet pour le futur du FC Barcelone ? Le PSG creuse l'écart en Ligue 1 grâce notamment à un excellent, excellentissimo brasileiro Neymar. Les Dogs lillois rivalisent eux d'inefficacité alors que les Gones semblent dans une bonne dynamique car le Toko Ekambi a même inscrit son premier but sous le maillot lyonnais. Invité dans ce studio aujourd'hui, eh bien, nous avons Eric Rabessandratana. Bonjour Eric.
Bonjour Annie, bonjour à toutes et à tous.
Content du Brasileiro ?
Ouais, très content.
Très content. À vos côtés, Nabil Djellit. Bonjour Nabil.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
Un passionné de NBA, n'est-ce pas Nabil ?
Oui, grâce aux insomnies, c'est un sport qu'on peut pratiquer la nuit.
Bonjour Gilles Verdez.
Bonjour.
Merci d'être ici et je peux vous dire que sur notre page Facebook, il y a énormément de messages qui me demandent de vous saluer d'un peu partout en Afrique
sympa.
Et qui apprécient votre présence fidèle du lundi.
Le plaisir est immensément partagé.
Bonjour Frédéric Suto.
Salut Annie.
Radio Foot, c'est donc parti.
It's so hard to say goodbye to what we had.
Un hommage en musique dédié à Kobe Bryant lors de la cérémonie des Grammy Awards hier soir à Los Angeles par la voix d'Alicia Keys. Et autour des terrains de football, les messages et déclarations dirigés à l'immense star américaine du basket et de la NBA ont été nombreux. José Mourinho, Zinedine Zidane ou encore Neymar dans le stade Pierre Mauroy de Lille ont chacun exprimé leur tristesse.
C'est une grande tristesse pour le monde du sport et pour nous tous. Pas seulement les fans de basket, mais aussi parce que pour tout ce qu'il a fait pour le sport. Je le connaissais et j'ai fait cette célébration pour lui, son numéro.
C'est terrible, c'est une terrible nouvelle pour le monde du sport. Et nous en sommes très tristes. Je suis désolé pour sa famille. Je ne l'avais jamais rencontré. Mais nous sommes très tristes de ce qui s'est passé.
Bryant for the win! Bang! Kobe Bryant has hit a shot at the buzzer!
I read one quote.
Je voudrais partager une citation de Kobe pour montrer son professionnalisme et son côté serial winner. Il disait « Les gens pensent de moi que je suis difficile, mais je le suis seulement avec ceux qui ne partagent pas mes valeurs. » Eh bien voilà, Kobe, toutes les personnes qui partagent tes valeurs t'aimeront toujours.
You do the work, you work hard enough, dreams come true. You know that, we all know that. Those times when you get up early and you work hard, those times when you stay up late and you work hard, that's the dream. It's not the destination, it's the journey. Thank you guys so much. I love you. Mamba out.
Kobe Bryant, c'était sa voix lors de ses adieux au monde du basket lorsqu'il avait raccroché avec les Lakers. C'était en 2016, ce club où il a passé une vingtaine d'années de carrière. Nabil Djellit, je parle sous votre contrôle. On entendait dans ces hommages concoctés par Laurent Salerno un « Ici, c'est Paris ». C'est ce que Kobe Bryant avait lancé aux joueurs en faisant un selfie. Il était allé voir les Parisiens à l'entraînement. événement au Camp des Loges il y a quelque temps. Il avait aussi rendu visite aux joueurs du FC Barcelone une fois et assisté à des matchs de la Coupe du Monde en 2014 au Brésil. Alors certes, il y avait un équipementier américain commun à tous ces clubs visités, mais Kobe Bryant avait vécu en Europe, à Mulhouse et à Milan, au hasard des clubs de basket où avait joué son père, et il avait déclaré une vraie passion pour le foot. Vous le savez, c'est pas le sport numéro un aux États-Unis ni même numéro deux. Une passion à sens inverse, parce que Nabil Djellit, les footballeurs d'aujourd'hui ont un vrai intérêt pour la NBA. Et pas plus tard que la semaine dernière, on parlait de Mbappé, oui, qu'on avait entendu parler anglais, mais il parlait surtout plutôt un Américain à la mode, justement, on avait dit des joueurs de basket. Il y a lui, il y a Pogba, il y a Thierry Henry, Neymar, qui ont vraiment déclaré leur flamme pour ce sport américain. Alors c'est peut-être aussi la passion du sport, et entre athlètes de haut niveau, on se reconnaît.
Il y a ce côté-là, après, pour la France, pour le pays que je connais, c'est aussi une question de culture urbaine. Souvent, ces garçons sont nés dans des milieux populaires. Et quand on grandit dans un quartier, c'est 80% des cas des footballeurs français, il y a le foot, évidemment, mais il y a aussi le basket. Le basket occupe une place dans la cité, dans le forum, en quelque sorte. Et le basket, c'est un sport, mais c'est aussi une culture, et une culture dans laquelle ils se retrouvent, notamment au niveau, ça peut être du style, des fringues, des personnalités,
musique,
ce qui dégage.
Poste,
donc c'est quelque chose qui... Donc je pense qu'on va en parler. Après, un truc tout bête, on a tous... acheter des baskets, ou certains du moins ont acheté des baskets, qui avaient des noms
surtout
de basketteurs.
En France, on dit basket en plus que tennis. En France, on met des baskets.
Voilà, vous parliez de la marque à la virgule, donc il y a les Jordan, mais il y a aussi des déclinaisons selon les stars du moment. Il y a eu les Kobe, ainsi de suite. Donc c'est aussi ça, c'est une grande famille finalement du sport urbain, et le basket, c'est aussi une culture. Hip-hop, il y a beaucoup de rappeurs également qui adorent le basket, qui sont là autour des terrains à chaque fois que il y a des matchs. Je pense à Toronto qui est champion, à chaque fois il y a Drake qui est là. Du côté des Lakers, un des grands fans de Kobe Bryant, et qui lui avait même offert une voiture aux couleurs des Lakers lorsqu'il a pris sa retraite, c'est le rappeur Snoop Doggy Dogg. Donc c'est tout un univers.
Ouais. En plus, actuellement, Eric Rabessandratana, par exemple, le Paris Saint-Germain a passé un accord justement avec l'équipementier, mais pour une ligne de vêtements qui sont de la marque Jordan,
bien sûr.
Lancé par l'ancien basketteur, aussi des Lakers.
Là, c'est du business,
des Chicago Bulls.
c'est du business, mais c'est aussi, pour revenir sur ce que tu disais avant, Annie, c'est aussi parce que c'est un sport spectaculaire. Je pense que les joueurs de foot, sur le suspense, sur le rythme qu'il y a dans un match de basket, il y a beaucoup plus de choses qui se passent dans un match de basket que dans un match de foot, parce que ça va à 100 à l'heure, il y a le panier, tu vas de très vite.
C'est box to box, exactement. En permanence.
Donc c'est un peu la compétition, le spectacle qu'on peut retrouver. Et puis après, c'est vrai qu'il y a tout.
Le côté athlète,
les fringues, la musique, comme on a dit. Les joueurs qui sont un peu coolos,
charismatiques.
C'est la cool attitude, le basket. Ouais. Gilles.
Alors, après, je suis d'accord avec tout ça. Il y a la singularité quand même de Kobe Bryant. Sa singularité, vous l'avez dit, c'est qu'il a été élevé en Europe. C'est aussi que c'était un vrai fan de foot. Et comme vous le soulignez, c'est assez rare quand même, même si ça se développe un peu chez les sportifs américains, qui ont quand même une vision très centrée de leur grand sport. Et lui, il aimait beaucoup le foot. Vous l'avez dit, Coupe du Monde 2014, 2010, il ratait pas un classico. Soit au stade, il préférait Barcelone au Real, soit à la télé. Donc c'était un vrai fan. Il y a aussi le côté foudroyé en pleine force de l'âge, qui chez nos champions, comme chez nous tous, chez tous les jeunes et les moins jeunes du monde entier, provoque l'émotion considérable. Et c'était aussi la quintessence du champion. Il s'était construit dans l'adversité. Et regardez, en tennis, vous avez Djokovic, vous avez tous les sportifs, vous avez Messi, vous avez Ronaldo, qui disent, on le connaissait, et avec lui, on discutait de nos carrières, de nos tempéraments, de nos réussites, de nos échecs. En fait, c'était le champion entre guillemets, je parle du sportif, parfait. Et ça fait écho à tous les grands champions qui l'ont connu ou qui ont rêvé de le connaître.
Mm-hmm. Il y en a beaucoup qui l'ont découvert aux Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Il était là, les Américains qui n'y arrivaient plus depuis quelques Olympiades. Et là, on avait remis la grande
les
équipe,
All-Stars.
Kobe Bryant était là. Et Gaël Monfils, qui a perdu ce matin en quart de finale à l'Open d'Australie, eh bien, il le racontait, cela. Il était à Pékin et on se retrouvait au restaurant des joueurs. Il était devenu accessible, alors que ça restait la NBA qu'on voyait à la télévision, même pour des grands sportifs dans d'autres sports. Et là, ils avaient cette possibilité de discuter avec lui. Et l'amour du foot de Kobe Bryant, on en parlait, il a grandi en Italie. Il a passé quelques années là-bas, il a beaucoup aimé le Milan AC, mais c'était surtout un fan du Barça. Il racontait que Barcelone est venu en 2006 faire sa pré-saison du côté de Los Angeles, et c'est là qu'il a sympathisé avec Ronaldinho. Ensuite, il y a eu Lionel Messi, et il suivait de très très près les résultats tous les week-ends. Lui aussi, on est à l'envers là, mais lui aussi, la nuit, il regardait ce qui se passait en Europe.
Il voulait même finir sa carrière là-bas à un moment. Il a dit, je viendrai finir ma carrière de basketteur à Barcelone, comme ça je jouerai et je pourrai aller au Camp Nou, voir les matchs, etc., tout en allant à la plage, ajoutait-il.
Il y avait aussi un des témoignages raconte qu'il était capable de citer le 11 de l'équipe de Milan, des grandes années, hein, ouais, des années 90-2000. Oui, exactement. Et il était capable de citer toute cette équipe. Et sur les liens, Nabil, qu'il y a entre le monde du football et le monde du basket, vous en avez été témoin vendredi soir, oui, à Paris, où il y avait un match de NBA qui était un peu offshore, là, qui
le premier de l'histoire, hein. Il comptait pour le championnat NBA.
Pour la saison régulière,
tout à fait. Parce que rêve de faire la Liga aux États-Unis. Ouais. Voilà,
mais
exactement.
C'est vrai, vous avez raison. Au premier rang, il y avait tous les footballeurs du Paris Saint-Germain. J'en ai croisé même d'autres qui étaient là. Je pense à Amadou de Norwich, qui est passé par Séville. Et les footballeurs adorent le basket, adorent le côté spectaculaire du basket. C'est du five. C'est presque du five pour eux, quelque part, parce que ça va d'un but à
exactement
l'autre, quelque part. Il y a une certaine intensité, puis il y a des personnalités qui sont absolument hors normes. Après, il faut être sincère aussi. Pour le grand public, on connaît Kobe Bryant parce que c'est aussi une marque mondiale. On connaît Jordan parce que c'est une marque mondiale.
Presque des
mais
marques,
mais je rappelle quand même, et il ne faut pas l'oublier, que la NBA, ça joue quand les Européens dorment. Non, mais c'est aussi ça, il faut pas oublier que finalement, si on va voir le grand public, aujourd'hui, c'est plus une marque qu'un sport, parce que combien de Français ont vu, je dis n'importe quoi, 20 matchs de Kobe Bryant. Voilà.
On ne serait-ce qu'une finale de NBA. Voilà, c'est vrai que c'est à quelle heure, Nabil? Vers 4h du matin?
Ça dépend, ça va de 22.
Des bouges de vidéo.
Parce que finalement, on ne connaît pas grand-chose.
Sur les chaînes payantes.
On ne connaît pas grand-chose de ces performances brutes en soi. On connaît pas grand-chose.
Moi, je me levais. Je t'avouerais franchement qu'à l'époque de Jordan, moi, je me levais pour regarder les finales ou les... Donc,
il y a la Dream Team en basket. La Dream Team en basket, oui, en 1992 à Barcelone a ôté ce côté décalage horaire. Ils sont venus vers nous et là, ça les a hyper popularisés. Il y a eu aussi la finale de basket aux Jeux Olympiques, le grand match France-États-Unis.
Exactement.
On a affronté les
exactement
Américains. Mm-hmm. Donc là, il y a eu des moments où le décalage horaire s'est estompé.
Au JO, effectivement, comme c'est un ensemble de compétitions, là, quels que soient les horaires, finalement, sur une période plus courte, on a plus de repères et on y fait
après,
plus attention.
On se sent plus proche du basket que du football américain ou du baseball, par
oui,
exemple.
Exactement.
Aujourd'hui, bon, je ne suis pas sûr que grand monde connaisse les 3 ou 4 stars du baseball. Moi, personnellement,
je baseball un peu, mais
France,
du baseball, je ne suis pas sûr.
Il y a eu la carrière de Tony Parker qui vient de se terminer, mais des Français en NBA, vous en
avez
quand même
plus
un certain nombre, et les Français suivent de plus en plus la NBA, ça, c'est certain.
Oui, puis il y a quand même un bon championnat d'Europe de basket, notamment chez les hommes. On a eu des grandes équipes, on se souvient de Villeurbanne, on se souvient
Limoges,
de Limoges chez
qui
les
a gagné,
filles.
Et chez les garçons,
pour Orthez.
Et chez les filles aussi, Antibes.
Clermont chez les femmes avant,
oui,
et tout
les Clermont, le exactement.
Et Bourges.
Le et il y avait Antibes aussi.
La maman d'Aurélien Rougerie.
Antibes aussi, hein, bien sûr, dans les grands clubs. Vous disiez aussi, Frédéric, avoir lu qu'il y avait aussi des liens sur le comportement entre un footballeur et un basketteur, hein, sur un terrain, et c'est Mbappé qui l'a raconté.
C'est vrai qu'aujourd'hui le foot, mais ça date, c'est pas nouveau, mais de plus en plus on décortique les matchs statistique par statistique, et les joueurs regardent de plus en plus leurs statistiques individuelles avant même le résultat de l'équipe. Et parfois on a certains joueurs, on a l'impression qu'ils sont plus attachés comme un basketteur à leur feuille de stats. Avec le Money
Mbappé,
Time, oui, avec un Kylian Mbappé qui va rentrer, on se souvient, en début de saison, là, quand il était blessé. Mm-hmm. Thomas Tuchel l'avait pas titularisé, il le faisait un peu rentrer. Bon, ben, vous voyez, je suis rentré, paf, j'ai mis les deux buts, c'est moi qui suis la valeur ajoutée, je suis là dans le Money Time. Il raisonnait un petit peu comme un basketteur, finalement, Kylian Mbappé.
Après,
ils
là,
se
c'est
sont
plus...
appropriés. Les codes un petit peu de la NBA.
Alors là, oui, mais c'est aussi parce que c'est le côté compétiteur. C'est-à-dire qu'il faut briller, donc il y a. Je rejoins ce que tu dis, mais c'est vrai que c'est surtout sur la compétition et sur le fait de... Bah, lui, il veut des trophées, il veut des... Donc, pour lui, c'est d'abord améliorer ses stats avant de penser peut-être collectif. C'est ce que je lui reproche en ce moment, d'ailleurs.
Mais vous êtes d'accord, juste pour en basket, on a toujours parlé de stats.
Bien sûr.
Hein, ouais. En foot, il y a les années 80, on donnait les buteurs, mais on n'était pas décortiqué le nombre de ballons perdus.
C'est une culture américaine, voilà. Les stats, c'est vrai dans le football américain, dans le baseball, dans la NHL. Et puis d'ailleurs, c'est ce qui a été un peu, comment dire, reproché à Kobe Bryant au début, parce que c'était un athlète d'abord qui était un scoreur avant toute chose. Et c'est un personnage qui a été extrêmement clivant aux États-Unis, qui avait ce qu'on appelle des haters. Donc c'était du 50-50. Et au fur et à mesure du temps, il a su faire l'unanimité autour de lui, notamment sur cette valeur, et qu'on a entendu au début de l'émission, cette valeur travail, parce que à un moment, il est tellement fort, que tu te dis, il est tellement fort et que tu le respectes. C'est pas quelqu'un qui a été forcément aimé. Jordan a été aimé par tout le monde. Kobe Bryant n'a pas été aimé par tout le monde, loin de là même. Et c'est vrai que c'est un athlète qui a su imposer le respect au fur et à mesure de sa carrière, et qui était d'abord auto-centré, et qui s'est ensuite fondu dans un jeu d'équipe en oubliant ce dont vous parlez, les stats. Et ça peut être un bon exemple aujourd'hui pour certains footballeurs, par exemple, qui courent les stats avant tout. Voilà.
C'est sans doute ce que sous-entendait d'ailleurs José Mourinho, qu'on a entendu tout à l'heure, ouais. Sur sa citation. Gilles ?
Hier, je suivais les messages postés par les footballeurs, et à un moment, aujourd'hui ça a dû le dépasser, mais le message de Messi avait été mentionné 6 millions de fois, déjà, le message de Messi. Et en fait, il y a très peu, non seulement d'athlètes, mais de sports qui ont une dimension universelle. Quand vous prenez les sports universels, vous avez le foot, bien sûr, vous avez la Formule 1, vous avez la NBA, vous avez peut-être la boxe ou l'athlétisme, mais il n'y a pas 50 sports universels. Et ces sportifs-là, Kobe Bryant, comme Lionel Messi, comme Lewis Hamilton, ont une dimension universelle. Et c'est pour ça que les messages des footballeurs hier étaient particulièrement nombreux et particulièrement touchant. Émouvants. Ah ouais, exactement. Il y avait une sincérité incroyable.
Oui, alors des messages, il y en a eu effectivement. Il y avait Messi, il y avait Cristiano Ronaldo, Depay, Iniesta, Ronaldinho, qu'il connaissait, donc certaines cohabitations. Ziyech aussi.
Thierry Henry,
bien sûr, passionné
de basket
et de NBA. J'aurais voulu citer, c'est celui de Paul Pogba, lui aussi dans cette veine. C'était assez joli son message sur Twitter où il disait « Les héros vont et viennent, les légendes sont là pour toujours. Hein. » Legend. Forever. Il y a nos stars africaines aussi, Didier Drogba, qui a longtemps vécu aux États-Unis, qui joue en MLS, et qui, dans son message, disait « Non, je ne peux pas le croire », alors que Yaya Touré a simplement dit « So sad, c'est trop triste ».
George Weah aussi a mis un message hier soir aussi, qui est fan. Il a beaucoup vécu, il a une maison à Staten Island aux États-Unis.
Il a une culture américaine.
Absolument, on connaît la proximité entre le Liberia et les États-Unis. Mais il connaissait très bien la NBA, il jouait lui-même au basket énormément.
Il a la taille pour ça.
Ah oui.
George Weah. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette grande émotion dans le monde du football, et ces liens aussi qui existent entre ces deux disciplines, mais qui ne sont pas opposées, loin de là, entre le basket et le football.
Le Barça poursuit sa mue, donc 21e journée de la Liga. Un match très compliqué attend les Catalans. Le déplacement à Mestalla, le terrain de Valence.
Oh, doble. Quedó sin embargo otra vez para Maxi Gómez. Gol del Valencia, Maxi Gómez.
Moi, je suis complètement sous le charme. On a retrouvé le grand Barça. Cette équipe va nous ramener vers les sommets. Barcelone est de retour. Le nouveau visage de ce Barcelone. C'est le Barcelone de Guardiola, de Cruyff. Le fil est enfin renoué avec cette tradition.
Del Valencia, gol de l'équipe Che. Gol de Maxi Gómez, vale un gol. Vale un triunfo, vale Maxi Gómez, vale mucho. Para el Valencia.
Gilles, je sais que vous n'êtes pas homme à vous renier, mais c'est vrai que vos paroles de la semaine dernière ont quand même un drôle d'écho cette semaine. Mais
je vous connais tellement bien, Annie, que j'étais sûr que vous alliez relever ça.
Mais
je ne pensais pas
à
une diffusion, c'est trop d'honneur. Mais vous savez, mon drame, est-ce que vous connaissez mon drame ?
Dites-moi.
J'ai toujours eu raison trop tôt. Et ce contre-temps, cette manière de prendre à contre-pied les gens et parfois même les auditeurs crée parfois du trouble. Mais bien entendu que j'ai raison. J'ai une formation d'historien. Je ne vais pas me laisser prendre par une semaine compliquée. Le grand Barça est de retour. Simplement, laissez-le revenir tranquillement.
D'accord. Voilà. Justement, c'est ce dont on va parler.
Absolument.
Gilles, parce que pour l'instant, c'était une triste journée pour ce Barça et pour les amoureux de ce club, de son style aussi, car les Blaugrana, ils ont perdu sur la pelouse de Valence lors de cette 21e journée. C'était quand même une équipe, nous, en tout cas, et beaucoup de critiques ont trouvé une équipe triste à regarder, triste à s'évertuer, garder la balle, mais sans but et sans concrétisation, alors que Valence, sûr de ses valeurs, on connaît Valence, c'est toujours un problème pour le Barça, c'est toujours un problème pour Real, même s'il ne gagne plus le championnat ces derniers temps, mais c'est quand même une équipe très difficile à jouer, eh bien, une fois de plus, hein, c'était le poison des adversaires. Alors, le nouvel entraîneur, Quique Setién, dont vous avez tant salué l'arrivée, Gilles, eh bien, il a assisté à la première défaite en 3 matchs hein, depuis qu'il dirige le Barça. Et son constat est quand même sans appel.
C'est vrai, il y a des choses qui n'ont pas été bien réalisées ou alors elles ont été mal expliquées. Personne n'est content de notre prestation aujourd'hui, ni les joueurs, ni le staff. Valence a très bien joué. De notre côté, il y a des ajustements à faire. Nous avons fait trop de passes. Et si nous avions travaillé là-dessus plus tôt, le résultat final aurait pu être différent. Il y a des choses à analyser, à expliquer, à corriger.
Alors, Gilles, je vais vous donner la parole, évidemment, parce qu'on a eu l'impression d'une domination stérile de cette équipe, mais surtout, elle a perdu 2-0, certes à l'extérieur, mais c'est quand même une sévère leçon.
Absolument, je suis d'accord avec vous. Sur le court terme, il n'y a rien à dire. 4e défaite, ils perdent la tête. Griezmann repositionné en pointe ou dans l'axe, c'était complètement esselé. Il n'y avait que Messi qui tentait quelques coups. Et sans Ter Stegen, l'addition aurait été beaucoup plus lourde quand même, il faut le noter aussi. Donc il n'y avait pas grand-chose, mais c'est le prix à payer. C'est le prix à payer, il faut qu'ils reconstruisent la défense. Je ne vous ai pas promis que ça marcherait en un jour. Il faut qu'ils reconstruisent cette défense, il y a trop de fébrilité. Ça dépend trop de Messi, donc ça prendra du temps. Mais après, il est dans le vrai des fondamentaux de Barcelone. Simplement, les joueurs les avaient oubliés. Moi, je veux bien, mais l'ère Valverde, on ne peut pas effacer le préjudice commis. Il a fait mordre la poussière au jeu collectif du Barcelone. À Nice, ça ne s'efface pas en une semaine.
Nabil Djellit.
Bah, j'entends ce que dit à juste titre Gilles. Donc c'est vrai que c'est un logiciel qu'il faut ingurgiter. Et quand vous arrivez en cours de saison, c'est pas toujours simple. Il y a une pression qui est maximale. Après, moi, je suis voilà, c'est tout est résumé. Messi était l'arbre qui cachait la forêt. Et quand il est un peu moins bien,
on le savait quand même ces derniers temps. C'est vrai que l'année dernière, on se disait qu'il était encore champion d'Espagne, mais que Messi était à la baguette.
Ouais. Moi, ce qui m'interroge, c'est pas la défense, parce que je pense que la défense, ils ont les ingrédients pour pas prendre tant de buts que ça.
Ils en ont pris 25.
C'est surtout le milieu de terrain. Mais c'est surtout le milieu de terrain qui est plus. Qu'est-ce qui faisait en fait le succès du FC Barcelone?
C'était Iniesta et Xavi quand même.
Iniesta, Xavi, Busquets, et puis ensuite Messi qui faisait la différence. Aujourd'hui, le milieu de terrain n'arrête pas de changer. Est-ce que quelqu'un ici est capable de me donner le milieu de terrain titulaire type du FC Barcelone? Un coup, il y a Vidal, un coup, il y a Arthur, un coup, il y a Busquets, un coup, il y a Rakitic, un coup, il y a Sergi Roberto, et un coup, il y a un garçon qui vient d'arriver qu'on n'utilise pas comme il faut, De Jong. Moi, je pense que c'est surtout là le grand chantier de Quique Setién, c'est au niveau du milieu de terrain, c'est de redonner un ADN, des circuits préférentiels, et de trouver les bonnes complémentarités. Ensuite, Messi, c'est Messi. Il fera la différence avec les garçons qui sont autour de lui. Et c'est à ce niveau-là, à mon avis, qu'est le principal travail du nouvel entraîneur.
Et les statistiques, puisque tout à l'heure on parlait de chiffres, eh bien vous donne un peu raison, Nabil, puisque c'est la meilleure attaque de la Liga actuellement. Ils ont marqué 50 buts, ça fait 2,38 buts par match, et c'est déjà énorme. Mais c'est vrai qu'ils
en marquent moins depuis quelques matchs. Voilà, et Luis Suarez, l'Uruguayen, n'est plus là. Hein. Mmh. Il est blessé, alors que c'était le fer de lance avec Lionel Messi début de saison.
Busquets, c'est devenu anonyme dans cette équipe. C'est terrible.
Du Barça. Est-ce qu'il faut recruter là d'ici la fin du mercato?
Non.
Pour remplacer Luis Suarez?
À mon avis, c'est trop court, Eric, pour recruter. Maintenant, moi, j'étais pas été fan du Barça contre Valence. Alors Valence a été efficace en fait.
Ouais.
Ils ont dominé le Barça, mais ils ont été efficaces Valence. Messi, je l'ai trouvé très très moyen. Et forcément, si lui est déjà très très moyen derrière, c'est difficile de suivre. Mais je reconnais pas le Barça qui était conquérant comme on a pu le voir avant. Et je crois que ça va être comme ça toute la saison, à mon avis.
Gilles, est-ce que cette rumeur ou information, c'est toujours difficile à étudier, mais par exemple cette rumeur que Giroud pourrait venir, est-ce que ça c'est pas justement totalement contre quand même l'image et l'esprit, et justement vous parlez de revenir à des fondamentaux et à des valeurs? Alors il y a Giroud, ce n'est peut-être qu'une rumeur, sans doute. Je vois vos gestes, Nabil, mais on peut penser à d'autres recrutements qui avaient échoué ces derniers temps. On pense à Malcolm qui était venu de Bordeaux, qui était pas mauvais joueur mais qui était sûrement pas compatible. On pense à Todibo, même Dembélé, mais qu'ils ont dans leur effectif.
Est-ce qu'ils se posent la question là? Il leur reste 4 jours, est-ce que du côté de Barcelone, réunion de crise, on se dit qu'il faut recruter un neuf,
quoi. Bah, à partir du moment où déjà tu as Suarez qui joue pas, quand Suarez joue, je pense que c'est, y a quand même le niveau est meilleur.
Le pansement, disons.
Mais voilà, après derrière, Dembélé blessé souvent.
Ils n'ont pas l'argent surtout. Barcelone a toujours été en proie à des recrutements tardifs ou non ratés. Ça, c'est pas d'aujourd'hui. C'est une équipe extraordinaire que moi je suis depuis toujours.
Mais ces derniers temps, Gilles, c'est assez
mais même avant, Annie, les apports exogènes à Barcelone, les greffes ne prennent pas toujours. Mm-hmm. Il y a eu toujours plein de rejets, plein. Mais seulement, il y avait des succès. Mm-hmm. Et là, ça fait quand même beaucoup de rafistolage. C'est-à-dire que quand vous prenez des joueurs, vous ne savez pas où vous allez. Alors là, il leur manque dans l'urgence un buteur. Donc ils vont peut-être prendre Giroud ou un autre.
Ils auraient pu reprendre Zlatan.
Pourquoi pas?
Mais je pense à une greffe qui avait pas prise, justement.
Mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas pensé, ce n'est pas théorisé.
C'est dans l'urgence.
Moi, je pense que cet entraîneur-là peut de nouveau théoriser en faisant venir monter des jeunes. C'est indispensable à Barcelone.
Mais est-ce qu'il n'y a pas eu une erreur aussi de virer Valverde en plein milieu de saison, alors que ce n'était pas du tout dans l'ADN du Barça, de faire un peu le dos rond, même si on sait qu'il n'y avait pas le style, mais jusqu'à la fin de saison et tout mettre à plat à la mi-saison?
C'est l'homme qui est quand même responsable de deux remontadas historiques dans l'histoire du FC Barcelone. Ok, il a fait le job en Liga, mais on a tous vu que c'était Messi qui faisait tout. Parce que 36 buts, alors que le deuxième buteur est à 21 ou 22, c'est qu'il était absolument hégémonique. Il fallait le virer en fin de saison. Beaucoup l'ont dit. Et partir avec un nouveau projet, un nouvel entraîneur. Et peut-être que là, Xavi, par exemple, serait venu. Parce que Xavi, il a senti la patate chaude. Parce qu'on se rappelle quand même qu'il a été d'abord courtisé. Ensuite, ils ont pris Quique Setién, qui est un excellent technicien.
Oui, mais là-dessus. Xavi, on l'a expliqué.
Il paraît qu'il arrive.
Mais Xavi est surtout lié à un possible candidat contre le président du Barça, Bartomeu.
Il y a des raisons politiques. Mais le timing, il a dû renifler que ça sentait pas bon non plus, en quelque sorte. Donc oui, Valverde a trop duré et aujourd'hui, alors c'est très contradictoire parce que au fond, au niveau des résultats, alors sur le fond, on est loin du compte.
Ils étaient en tête de la Liga.
Ils sont deuxièmes, juste à 3 points du Real, et je vous rappelle quand même qu'ils sont encore en Ligue des Champions. Mm-hmm. Les résultats en soi ne sont
pas. C'est un minimum pour le Barça.
Ils sont pas catastrophiques.
C'est champions sortants quand même.
Ouais, mais c'est
Eric.
Là, je vais revenir sur ce que tu disais par rapport au recrutement. La différence qu'il y a aussi, c'est que avant, ils pouvaient s'appuyer sur un collectif qui était bien huilé et qui fonctionnait bien. C'est pour
et
ça que
intégrait.
C'est pour ça qu'on voyait moins les défauts du recrutement. Mais c'est vrai que dans l'organisation, je crois qu'ils sont pas très bien organisés pour ce recrutement. Donc du coup, c'est toujours des coups de dernière minute. Puis comme c'est le Barça, soit ils ont les sous, donc ça va vite.
Mais là, ils les ont pas. Ils les ont pas parce que ils sont contraints par le fair play financier. Ils avaient pas pu recruter Neymar l'été dernier pour des raisons qu'on connaît. Aujourd'hui, si vous voulez un attaquant à ce moment-là du mercato, c'est extrêmement compliqué. À moins de sortir vraiment le gros chèque. Un nom auquel on pourrait penser, s'ils ont envie de tenter un coup, c'est Pierre-Emerick Aubameyang, parce que qualitativement, c'est un joueur qui met des buts partout où il va.
Il y a Cavani, sinon.
Oui, mais pourquoi Arsenal le laisserait-il partir?
Parce qu'il a toujours pas prolongé son contrat avec Arsenal et qu'il peut aller au bout de son contrat, il peut être libre dans un an et demi. Ouais. Et l'intérêt d'Arsenal, peut-être dans cette histoire, s'il y a la volonté du joueur d'aller au FC Barcelone, on sait qu'il a toujours rêvé d'Espagne, ça peut être une solution.
Gilles.
Après, ce qui se passe, c'est que il y a le péché originel que Nabil soulevait du non-recrutement de Neymar. Et je pense qu'au fil de la saison, les dirigeants se sont rendus compte d'une déliquescence. Mmh. Et Messi a longtemps protégé Valverde. Messi a toujours été une sorte de paravent pour Valverde.
Et a longtemps réclamé Neymar.
Mais oui, absolument. Et donc, je pense qu'à un moment, ils se sont dit que malgré la protection de Messi, avec Valverde, c'était le drame assuré. Donc, ils ont tenté quelque chose. Je ne sais pas si ça va suffire, mais je pense qu'avec Valverde, il y avait des fissures à l'intérieur de l'effectif et que c'était vérolé.
Et Griezmann, pour l'instant, moi, je suis désolé de le dire, c'est un flop. Mm. Alors, c'est peut-être dur à entendre, mais sur les trois ou quatre dernières saisons...
Oui, il y a eu deux buts en coupe, contre une troisième division la semaine dernière.
Ouais, contre des DJ, ouais. Voilà. Des bizarres, quoi. Non, mais il y a un moment, il faut dire les choses.
Alors ça décharge.
Oui, mais bon, ça décharge.
L'arrivée a été un petit peu. Je suis d'accord avec toi. Franchement, c'est.
Oui, mais
c'est...
on parle quand même d'Antoine Griezmann. Mais
il joue, il est titulaire.
Champion du monde.
Non.
Ouais, mais non, mais il joue, il est titulaire ou pas? Là, il était dans
l'axe. Ah oui, bien sûr.
Ouais, bien
il a rien
sûr.
Fait. Il
bien
était
sûr.
Transparent.
Pendant ce temps-là, eh bien, plus sereinement, le Real a donc pris les commandes de la Liga à la faveur de sa victoire sur Valladolid. Une sixième victoire consécutive pour l'équipe de Zinedine Zidane qui reprend une place de leader abandonnée à la 8e journée.
Ce sont 13 points importants, mais rien de plus. Sabemos que la queda mucha liga.
Voilà, ils ont, c'est juste 3 points, la liga est encore longue, ça il nous apprend rien Zidane puisqu'on en est à peine au basculement, mais c'est vrai qu'ils les ont pris ces 3 points, ouais. Et c'est vrai que cette équipe qu'on avait vu il y a 2 mois, on se demandait si Zidane serait encore là. Et bien quelques jours du choc madrilène, on y viendra, à Santiago Bernabéu contre l'Atlético qu'ils vont recevoir, et bien le Real s'est installé à la première place. Gilles, et on sait que c'est l'objectif des Merengues cette année.
Objectif absolu, 19 matchs sans défaite. Malgré un mauvais match, c'est ça que je trouve intéressant. Premier tir cadré à la 51e minute, ça leur était pas arrivé depuis 2015 en championnat. Donc c'est quand même incroyable. Mais c'est cette solidité défensive. En championnat, quand vous regardez le Real, 21 matchs joués, 13 buts encaissés. Et tout est là pour moi.
C'est-à-dire le Real, le Barça a encaissé le double.
Exactement. Mmh. La solidité, c'est-à-dire
c'est
des matchs.
C'est la 11e fois qu'ils ne prennent pas de but.
Mais oui, vous ne brillez pas. Mais cette solidité collective que Zidane souligne à chaque fois en incluant tout le monde dans la rotation. Cette solidité.
Oui, c'est Nacho qui a marqué.
Absolument. Mm-hmm. Et on voit le geste de Zidane qui vient le voir tout content. Cette solidité, ce collectif, c'est la force du Real cette saison.
Après, il y a un homme qui est monstrueux au Real. Pour l'instant, c'est le meilleur joueur du Real.
Casemiro.
Oh, c'est incroyable. Moi, j'ai regardé le match hier, là.
Ça fait plusieurs saisons.
Et il enchaîne, mais. Il reste une minute de jeu. Le Real mène 1-0. Il monte tout seul comme un dératé au pressing. Il a une intelligence de jeu qui est absolument incroyable. Et ensuite, comme l'a dit à juste titre Gilles, le turnover, un turnover intelligent. Nacho, qui n'apporte pas autant que Carvajal sur le côté, qui est plus un joueur de position, qui vient quand même sur une situation de coup de pied arrêté initial, venir couper une trajectoire et permettre au Real de gagner ce match. Ils ne se sont jamais délités. Ils sont restés en bloc pendant tout le match. Et même quand Benzema est un peu plus discret, même s'il est bon dans les intervalles, il trouve quand même la solution avec d'autres joueurs. Un joueur aussi qui revient à un certain niveau, qui est agréable à regarder à jouer, c'est Modric. Également,
oui, il y a quelques grognards, ouais, Toni Kroos, voilà, ou Luka Modric, ils sont toujours là. Il a réussi à les relancer.
Ils sont toujours là. Et puis, vous avez un peu ce grain de folie, cette percussion, cette envie d'aller de l'avant qui est représentée par le jeune Brésilien Rodrigo. Et puis, lors du match face au Real et au Barça, et encore, le Barça s'en sort bien parce que ça aurait pu être davantage. On a vu que la tendance, c'était...
Au point, ils étaient largement vainqueurs, les Merengues. On l'avait dit. Eric, une chose, quand on voit notamment au moment du but de Nacho, ce sourire quand même sur les visages, et notamment le capitaine emblématique qui est Sergio Ramos, et tout ça, on sent qu'il y a une quelque chose de positif en fait entre ces hommes, non ? Je me trompe ? Plaisir commun.
C'est important d'abord de voir que ce Real-là, souvent, dans cette période de la saison, c'est comme une renaissance, et que la Ligue des Champions arrive derrière.
Avec Cristiano Houssan, c'est toujours le même moment.
Voilà, ils ont, c'est incroyable, d'ailleurs, c'est comme si c'était dans les gènes, même si, ils ont des trous, avant, ou même s'ils sont méconnaissables, ils sont capables de renaître après la trêve hivernale et de se relancer dans les compétitions pour arriver, au point, dans la suite. Pour ça, au début, je me suis dit.
Au point et à point. Et à point, pour la Ligue des Champions.
C'est pour ça, je me disais au départ que City allait battre facilement le Real. Et bon, moi,
t'as pas vu la défense de City,
Ouais, c'est ça. C'est pour ça aussi, je me dis. Mais c'est vrai, au départ, je pensais ça.
Mais, Eric, il y a une chose aussi. Ce match contre le Paris Saint-Germain, le match retour, on parle pas du match aller, le 3-0, mais le match retour qui se termine par 2-2. Mais c'est vrai que là, on a eu l'impression que le Real redevenait le Real.
Ouais, ils avaient retrouvé un peu de leur superbe.
Et l'envie aussi, sans doute, de montrer autre chose.
qu'ils ont joué un jeu qui a posé énormément de problèmes à Paris, même si Paris n'était pas au top sur ce match. Il n'empêche qu'on a retrouvé le Real conquérant et qui collectivement posait énormément de problèmes. Et en fait, c'est le début d'ailleurs. C'est vrai que c'est le début de leur renaissance un peu et de retrouver
la marche
dans le bon sens.
Après, c'est sûr qu'ils ont fait une sorte de pacte avec Zidane, qui a repris cette équipe quasiment sans jamais la changer, qui l'a repris en crise.
Oui, mais Gilles, à chaque fois, on dit qu'il y a un pacte avec Zidane, parce que Zidane, il est là depuis 4 ou 5 ans, finalement, malgré la petite absence.
Il y a deux pactes. Le premier pacte, c'était le triplé en Ligue des Champions. Et le second pacte, c'est, et ce sera le dernier, on va reprendre le titre national, vous disiez, qui est l'objectif absolu.
C'est l'objectif absolu.
C'est le seul ici qui est enregistré maintenant.
Le titre national.
Ce sera le dernier.
J'ai pas dit qu'ils l'auront.
Barcelone prend le relais.
C'est ce qu'ils veulent. Non, j'ai pas dit qu'ils l'auraient. J'ai dit c'est ce qu'ils veulent. Et ils se sont dit avec cette génération-là, ce sera le dernier trophée. Après, ça changera au Real. Voilà. Donc là, c'est l'aboutissement pour être champion.
Et il y a l'intégration qui va, et il y a le retour certainement programmé. Ils font tout ça sans Eden Hazard, quand même, qui est la recrue phare de l'intersaison.
On l'oublie.
Ça ne pourra pas leur faire de mal, un retour d'Eden Hazard également en cours de saison.
En tout cas, samedi à 16h, on aura l'occasion d'y revenir, mais le Real recevra l'Atlético Madrid, les Colchoneros, un peu dans une très mauvaise passe, notamment Diego Simeone, très critiqué. Ils sont cinquième et surtout à 10 points du Real Madrid, ces joueurs de l'Atlético, alors que le Barça, lui, recevra Levante. Ça sera le dimanche soir, Levante, autre club de Valence. Attention, cuidado à los Blaugrana.
Neymar, Neymar avec André, Verratti, Neymar, Neymar qui va armer la frappe. Mais quel but, quel but du génie brésilien qui nettoie la lucarne de Maignan. Il l'a mis exactement où il le souhaitait avec la force adéquate. 1-0 pour le Paris Saint-Germain, signé Neymar. L'un des meilleurs spécialistes au monde pour frapper les pénaltys, Neymar. Et il l'a touché, Mike Maignan, il l'a touché, mais ça n'a pas suffi. Et Neymar permet au PSG de mener 2-0, doublé pour le Brésilien, 2-0 pour le Paris Saint-Germain.
Neymar et le PSG en mode domination en cet hiver si dangereux pour les pieds de la star brésilienne, n'est-ce pas, Eric?
Oui.
On prie tous les jours du côté du PSG.
Ben, on est inquiet. En fait, moi, je suis inquiet tout le temps. En fait, dès l'instant qu'il prend un coup, je suis inquiet. Au vu de la gestion de Thomas Tuchel, je suis inquiet. Parce qu'il n'arrête pas de le faire jouer et que, bah, juste pour prendre l'exemple de Reims, à 3-0, il continue, il le fait finir le match. Là, hier, à 2-0, il peut très largement le sortir, il n'y a aucun problème. Même si vous faites match nul, ce n'est pas très grave. L'important, c'est de bien gérer sur la suite et sur le.
Bah,
et
oui.
Pour l'instant, il le fait jouer les matchs à fond. Alors, je comprends qu'il y ait une rivalité avec Mbappé, que, en plus, lui, il a marqué 2 buts. On voit le comportement d'Mbappé derrière qui, lui aussi, veut marquer des buts et du coup, redevient le Mbappé qu'on n'aime pas, c'est-à-dire individuel. Voilà. Donc non, il y a. Moi, je regrette la gestion de Tuchel aussi pour ce PSG.
En tout cas, le PSG poursuit sa route sans embarder, 10 points d'avance sur le second, qui est toujours l'OM. Le PSG a gagné donc à Lille hier soir en mettant fin à l'invincibilité des Dogs cette saison sur leur pelouse du stade Pierre-Mauroy et en poursuivant, eh bien, sa série. Ce PSG, 9 matchs d'invincibilité, dont 8 victoires, un doublé de Neymar au top de sa forme, donc. Et que c'est ce que ne peut que constater le latéral belge Thomas Meunier.
Je ne vais pas dire qu'on s'y habitue, c'est malheureux, mais quand il met qu'un but ou qu'un assist, on se dit wouf, pas fait un grand match. Mais en réalité, c'est juste sensationnel ce qu'il fait. Et pour Kylian et Andrel aussi, par exemple, c'est la même chose. Ils sont toujours décisifs. Voilà, on aura toujours besoin d'eux, et c'est vraiment une chance pour nous de les avoir dans l'équipe.
Thomas Meunier vous fait rire même,
ouais,
Eric.
Hein, vous parliez du quand il dit je soupçonne la Ligue d'avoir truqué
le tirage
pour avoir Paris-Lyon en finale.
Paris-Lyon en finale de la Coupe de la Ligue l'autre jour. C'est vrai qu'il est un peu cash, mais qu'il arrive toujours à très bien analyser les matchs. Il sera sans doute un bon consultant un jour. En tout cas, Neymar, largement au-dessus du lot, une note 8 dans l'équipe. Il reconnaît donc être en grande forme. Ses statistiques redeviennent celles d'un grand joueur. 11 buts en 13 matchs. Il est quatrième buteur du championnat de France derrière Dembélé, Mbappé et Ben Yedder. Et 47 buts en 50 matchs de Ligue 1. C'est énorme.
Ouais, c'est énorme. Mais c'est surtout. Je fais abstraction des stats. Son influence sur le jeu. Parce que c'est lui l'accélérateur du jeu. C'est lui qui trouve les décalages et qui met tout le monde sur orbite. C'est lui qui concrétise les actions, parce que là contre Lille, c'était très compliqué le début du match où le pressing des Lillois et mettait en difficulté énormément les Parisiens, et c'est lui qui débloque la situation en mettant ce but incroyable, même si ça part d'une belle action collective. C'est vraiment le moteur du Paris Saint-Germain à l'heure actuelle.
De toute façon, à l'échelle de la Ligue 1, c'est du jamais vu, hein. Je veux dire, quand il joue, c'est le meilleur. Pour moi, c'est le joueur le plus fort que j'ai vu en Ligue 1 à mon échelle. Peut-être vous êtes un peu plus âgé, peut-être pas de beaucoup, mais je sais pas, en termes de talent.
Mais quand même.
Moi, je parle du talent.
C'est la question, Nabil.
Non, mais moi, j'ai pas vu Dalep jouer, j'ai pas vu, j'en sais rien, Skoblar,
Bianchi.
Bianchi ou d'autres, mais moi, j'ai jamais vu un joueur aussi fort, quoi. On peut me le retourner dans tous les sens, quoi.
Le plus fort à avoir joué jamais en Ligue 1.
Ah, pour moi, c'est lui.
Pour moi, c'est Georges Weah.
Ballon d'or. Jouer quand il avait envie.
Avec autant d'influence
ballon
sur le jeu.
Ballon d'or.
Non, mais t'as pas besoin de gagner le ballon d'or. Enfin, le ballon d'or,
ça. Vous me demandez le joueur le plus fort à avoir évolué en Ligue 1.
Non, mais Gilles,
pour moi, c'est
balle au pied. Balle au pied.
En termes de créativité. Il avait sur la tête et but. c'est encore plus simple. Ouais. Et les buts fantastiques au Bayern, face au Bayern, à Kiev, ces remontées de balles coast to coast.
Non, mais t'as pas vu le phénomène, là, je crois.
Il a retrouvé ses jambes, hein, parce qu'il a quand même été longtemps blessé à l'automne. Neymar, la technique, ça on sait, il l'a, ça va, il va pas le perdre. Mais bon, quand il est revenu, novembre, décembre, on sentait qu'il fallait retrouver le rythme. Mais là, vraiment, il n'y a plus rien qui le gêne. Il est libéré physiquement et il fait des différences individuelles.
Et Mbappé, vous avez vu, ça coulisse dans l'autre sens.
Ouais, c'est vrai.
Il traverse un petit trou d'air. Je ne sais pas si psychologiquement, il fait le match dans sa tête avec Neymar.
Certainement.
Et il voit que peut-être qu'il est intouchable en ce moment.
Mais Gilles, pardon. Non, allez-y,
mais ça,
Frédéric.
C'est peut-être la question suivante, mais ça soulève une autre question. On parlait des quatre fantastiques. Kylian Mbappé, André Di Maria, Mauro Icardi, Neymar. Mais depuis que Neymar là, retrouve vraiment son véritable niveau, on revient à cette équipe du PSG où tout passe par Neymar.
C'est Neymar et les autres.
Neymar et les autres.
Et Gilles, tout à l'heure, quand Frédéric disait qu'il revient en forme, mais en plus, on a l'impression qu'il y prend du plaisir. Parce qu'on a connu cet été où il avait envie, parce qu'il aimait pas Paris, parce qu'il se sentait pas bien, ou peut-être parce qu'il pensait qu'il y avait un mauvais œil sur lui à Paris. Et là, tout d'un coup, on a l'impression qu'il a plaisir aussi à jouer avec cette équipe.
Oui, jusqu'à l'été prochain, lorsqu'il voudra rejoindre Barcelone. J'ai du mal, moi, je vous le dis franchement.
Ce Barcelone aurait tout intérêt à le recruter, d'ailleurs, non ?
Certainement. Entre l'apologie des Neymariens qu'on entend et je trouve les critiques à l'encontre d'Mbappé, moi, je suis Mbappéiste. Pour moi, voilà, vous me parliez de joueurs très forts, Mbappé est meilleur que Neymar. Mbappé est meilleur que Neymar, peut-être pas hier, peut-être pas avant-hier, mais sur la continuité. Parce qu'Mbappé aime son club, Mbappé aime jouer pour le PSG. Je trouve qu'il n'a pas l'esprit mercantile que je reproche à Neymar. La fidélité d'Mbappé, pour moi, vaut beaucoup plus que les éclairs géniaux, je le reconnais, de Neymar. Donc entre les deux, moi je vote Mbappé.
Je suis pas d'accord. Pas du tout. Allez-y, pas du tout, parce que d'abord on peut pas les comparer parce que je t'explique pourquoi parce qu'il y en a un qui organise le jeu et l'autre pas du tout, l'autre il est là pour finir les actions et un qui est là pour organiser le jeu et c'est exactement ce qu'il fait.
Neymar, mais en plus il organise et il marque aussi.
Et c'est ça, et en plus il finit les actions, ça veut dire que il est beaucoup plus complet qu'Mbappé. Maintenant je suis
ils ont marqué tous les deux 13 buts, hein.
Je suis aussi fan d'Mbappé, mais bien sûr, sauf que Neymar sur le ratio match joué.
Ah bah oui, d'accord.
Il a des années
parce que Neymar lui, il ne joue pas tous les matchs.
Ah bah voilà. Il a repris le 14 septembre, il était
blessé. Voilà.
Après la différence, alors, Mbappé, pour lui, revenir sur l'état de forme de Neymar.
C'est aussi Mbappé,
l'état de forme de Neymar se mesure aussi sur dans ses prises de balles, dans ses accélérations. Quand là on le voit jouer en ce moment, on a l'impression d'avoir retrouvé le Neymar en grande forme parce que voilà, ce contrôle orienté, ce pivot qu'il fait pour partir vers l'avant, il est capable d'éliminer les joueurs très très vite. Là on est avec un Neymar qui est en pleine forme. C'est pour ça que j'ai peur qu'à un moment donné
qu'est-ce qui est meilleur pour le PSG, une Neymar dépendance ou une équipe un peu plus équilibrée avec Di Maria qui rayonne comme en début de saison?
Alors Di Maria et Icardi sont un petit peu dans le creux de la vague, c'est pas très grave parce qu'il reste encore un peu de temps par rapport au match de Ligue des Champions, mais ils sont quand même un petit peu moins performants que dernièrement. Et Neymar,
moi je le trouve
et Neymar beaucoup plus collectif qu'une période où il était là. Donc il défend, ouais, c'est vrai. Donc il travaille beaucoup plus, il est plus important dans cette équipe de Paris.
Justement, ces quatre fantastiques dont j'espère que Mbappé nous écoute pas en ce moment parce qu'il a horreur de ça, mais nous aussi. Mais il y a eu ce terme utilisé ces derniers temps et c'est vrai qu'on retrouve en tout cas ces quatre joueurs en même temps sur la pelouse, à savoir Neymar, Di Maria, Mbappé et Icardi. Vraiment dans le creux de la vague en ce moment. Et Thomas Tuchel, quand même, a tenu hier à le défendre et à louer son travail.
C'est toujours le plus important pour des attaquants, pour des numéros 9 comme Mauro, qu'il fait des buts, il marque, mais des matchs comme ça arrivent, c'est comme ça. Le plus important est qu'il reste confiant, qu'il reste avec son effort pour l'équipe. Il travaille beaucoup, beaucoup contre le ballon. Et s'il continue de travailler, il va rester important pour nous et il va marquer encore.
Qui voulait prendre la parole sur Icardi ? Eric ?
Ouais, non, à sa décharge, Icardi est beaucoup moins performant en ce moment, mais on joue beaucoup moins avec lui. Et c'est difficile pour un joueur comme Icardi, parce que lui, il est dépendant du fait que les joueurs doivent jouer avec lui pour être performant. Alors que d'autres joueurs sont capables de faire la différence tout seul. Lui, c'est pas le cas. Il a besoin d'être servi et d'être servi dans la surface. Et en ce moment, c'est beaucoup moins le cas. Contre Lille, Mbappé n'a pas joué une seule fois un ballon avec Icardi. C'est vous dire, ils sont tous les deux en pointe. Donc il y a quand même un petit problème de
ils mobilisent des défenseurs Icardi après. Voilà.
Oui, vous me permettrez de faire remarquer à Eric, avec tout mon respect, un tout petit peu perfidement quand même, que les excuses qu'il trouve à Icardi, il ne les trouve absolument pas pour Mbappé. C'est-à-dire qu'Icardi, il est mauvais, c'est de la faute des autres. Mbappé, il rend mauvais les autres quasiment. Ça, donc là, vache. Je trouve que, je vais vous dire que globalement, il y a une injustice faite à Mbappé. On ne reconnaît pas le talent exceptionnel de ce joueur. Si PSG gagne la Ligue des Champions, qui sera Ballon d'Or ? Neymar ou Mbappé ? Eh ben moi, je vous dis, ce sera Mbappé.
Mais non, mais je suis fan d'Mbappé, Gilles.
Ah non, vous n'arrêtez pas de le critiquer. Non, il est trop individualiste. Il est dans le creux,
etc. Je mets en
etc.
lumière ces défauts qui lui posent des problèmes pour être un peu plus efficace dernièrement. C'est tout. Mais bien sûr qu'il est très très fort et qu'il sera Ballon d'Or un jour. J'ai aucun problème là-dessus.
Ouais, on en a annoncé d'autres, ça on peut pas. Faut faire attention quand même. Parce que Neymar, il devait déjà être Ballon d'Or depuis un moment. Quoi.
Je me souviens avoir tenu ici des propos et avec David Finzel, on en parlait beaucoup sur Mbappé, en se demandant à l'époque si Mbappé n'était pas une meilleure recrue que Neymar au moment où ils étaient arrivés.
Absolument.
Donc les deux, s'ils brillent en même temps et ensemble, ça peut être que meilleur. Ça ne peut être que meilleur pour le Paris Saint-Germain. Terminons avec les dogs de Christophe Galtier. L'an dernier, vous vous en souvenez, ils avaient quand même battu ce Paris Saint-Germain, je ne me trompe pas, hein, 5-1. C'était un peu la rouste contre le PSG. Eh bien, cette année, ne sont-ils plus que l'ombre d'eux-mêmes ? En tout cas, Christophe Galtier, évidemment, trouve des circonstances atténuantes, surtout des explications à la défaite.
Ça, c'est sûr qu'il y a un écart entre les deux équipes. Mais après, dans le comportement, sur une durée du match, j'ai trouvé que mon équipe a bousculé l'adversaire, mais que malheureusement, nous n'avons pas concrétisé les quelques situations que nous avions. Et nous a manqué un peu de personnalité à l'approche de la surface adverse pour éviter d'avoir des transitions, puisque quand vous attaquez, il faut finir les situations, autrement vous avez la transition avec des joueurs talentueux.
Nabil Djellit, la transition, alors c'est vrai que là, il y a quand même beaucoup d'occasions et peu de concrétisation.
Moins d'efficacité, surtout à l'extérieur pour ce LOSC qui est mauvais depuis le
début
de saison.
Comment expliquez-vous que l'année dernière, on parlait beaucoup du bip-bip, là, les fameux Bamba, Ikoné et Pépé.
Nicolas certes, Pépé qui est Arsenal aujourd'hui.
Voilà, il n'y a plus Pépé, mais est-ce que les deux autres, tout d'un coup, sont devenus inconsistants?
Bamba, il a un peu disparu de la circulation, il faut être honnête, il digère très mal sa saison précédente. Ensuite, Ikoné, c'est un joueur qui est quand même intéressant, qui a pris un peu le leadership offensif, mais qui manque de constance et de régularité. Ça reste un jeune joueur. Il a été appelé en sélection nationale. Il paraît que ça lui a pas forcément fait que du bien pour le coup. Et ensuite, Nicolas Pépé, c'était quand même 24 buts, une dizaine de passes décisives. Donc, c'est extrêmement difficile à remplacer. Il y a un garçon qui a émergé. Il évolue en pointe. Il est aussi jeune. Il faut jamais l'oublier. C'est Victor Osimhen.
Bien sûr.
Et je trouve que Lille ne fait pas une si mauvaise saison que ça termes de classement. Ces garçons ont également profité de la Ligue des Champions.
7e.
Ont également profité de la Ligue des Champions. Ouais, mais ils peuvent revenir dans le premier tiers facilement. Ces garçons ont également
dans
profité
le championnat de
la
France, tout le monde peut revenir quasiment. Saint-Etienne, 28 points, 15e.
Sauf Monaco, parce qu'ils sont obligés de changer d'entraîneur à chaque fois. ils ont profité de la Ligue des Champions pour acquérir du capital expérience et du capital confiance qui peut peut-être leur servir à moyen terme.
Eric.
Sur le match d'hier, quand on regarde le comportement de cette équipe de Lille, dans l'agressivité, dans le bon sens du terme, sur le jeu, c'était très bien.
Ils ne se sont pas laissés intimider.
Ils ne se sont pas laissés intimider, sauf que ils se sont sortis du match tout seuls en s'énervant.
Les effets d'arbitrage qui ont été défavorables aussi.
Ouais, mais enfin, bon, je pense que c'est ça qui a fait qu'ils ratent complètement leur Ligue des Champions. Non, mais c'est ça. Je veux dire, ils ont raté leur Ligue des Champions aussi et pour ça, parce qu'ils n'ont pas été bons dans les grands rendez-vous psychologiquement. Et alors que la saison dernière, sur les grands rendez-vous, ils étaient là.
Mais ils étaient limite en sur-régime l'année dernière. Ils ont laissé tellement d'influx nerveux
dans
cette saison exceptionnelle, deuxième
dernière.
De Ligue 1, on ne peut pas le reproduire tous les ans.
Quand vous vendez vos meilleurs joueurs à chaque intersaison, c'est ce qui vous guette.
C'est la philosophie
exactement.
Qui tue l'équipe,
mais c'est une mauvaise philosophie. Et ça joue sur l'état d'esprit, parce que Nabil le disait, c'est à l'extérieur qu'ils perdent 10 matchs à l'extérieur, une seule victoire. Il n'y a que les deux derniers qui en ont zéro. Une seule victoire à l'extérieur et 7 défaites. Avec ça, vous ne pouvez pas briller. L'état d'esprit, tout est là.
Ils ne brillent pas. Ils ont perdu un peu de mordant, ces dogs. On y reviendra sur la Ligue 1 dans la suite de la semaine de Radio Foot International. N'oubliez pas notre rendez-vous quotidien. David Finzel m'a aidé à préparer cette émission. Laurent Salerno était à la baguette, évidemment, aujourd'hui, à la réalisation. On vous dit merci à tous. Merci de nous suivre. Et à demain pour un autre rendez-vous. En 2000.